France Inter.
Citoyens et citoyennes,
camarades,
compagnons,
travailleuses, travailleurs,
françaises, français.
Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
On ne peut plus rien dire. Vous avez déjà entendu ça. Vous l'avez déjà peut-être même dit ou ressenti. Vous vous êtes déjà auto-censuré en vous disant « Non, je ne vais pas faire cette réflexion ». Mais dans le champ politique, dans le débat public, ce mantra revient souvent. On ne peut plus rien dire à cause, j'ouvre les guillemets, du politiquement correct, de la dictature de la pensée. Et toute cette semaine, jusqu'à aujourd'hui, et le meeting de soutien de Marine Le Pen, après sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité, il est question, pour ses soutiens bien sûr, de la liberté de parole entravée et censurée. En réalité, cette affirmation, on ne peut plus rien dire, nous le verrons, ne repose que sur des impressions, sur un ressenti surtout de ceux qui n'ont plus le monopole de la parole et du bon goût. On confond censure et controverse dans un environnement médiatique qui n'appartient plus simplement aux professionnels et aux autorités. Avec les réseaux sociaux, le champ de la parole est libéré, il appartient à tout le monde. En réalité, on peut à peu près tout dire, autant si ce n'est plus qu'avant, encore faut-il déterminer de quel avant parlons-nous. Seulement, tout le monde, même ceux qui n'avaient pas le droit à la parole, tout le monde peut maintenant répondre. Ce qui est frappant, c'est que les plus radicaux se plaignent de ne plus pouvoir dire ce qu'ils ont sur le cœur, sans se faire traiter par exemple de raciste ou de sexiste. Mais les plus modérés s'insurgent de voir la nuance disparaître des débats, censurés par des algorithmes ou des programmations qui ne favorisent, pour des raisons commerciales, des calculs politiques ou pour assurer le spectacle, qui ne favorisent que les avis les plus tranchés, c'est-à-dire les plus simples. Quand les plus radicaux et les plus modérés s'accusent mutuellement de truster l'espace des débats, cela veut sans doute dire que le problème n'est pas la censure, légale ou morale, mais bien la capacité d'encaisser la contradiction. C'est donc la preuve que, plus que jamais, la diversité des opinions s'exprime sans entrave. Il est question aujourd'hui, vous l'aurez compris, dans Enquête de politique, de la liberté d'expression. Il nous faudra 2 émissions pour aborder ce sujet inépuisable. La semaine prochaine, donc, 2e volet avec le bolorisme. Et oui, il faut mettre un isme à ce phénomène, à la prise de contrôle et la formation par Vincent Bolloré de tout un empire médiatique avec une visée politique affichée et assumée. Et un moyen revendiqué, desserré, je remets des guillemets, desserrer le carcan idéologique de gauche qui enserrait les débats politiques et médiatiques en France. Ça sera donc dimanche prochain. Ce soir, nous allons donc rester sur cette affirmation « on ne peut plus rien dire » et nous sommes avec 2 universitaires spécialistes de ce que l'on peut dire et de ce que l'on ne peut pas dire, en quelque sorte. Thomas Hochmann, professeur de droit public à la Sorbonne, auteur d'un petit livre sur le sujet intitulé justement « On ne peut plus rien dire. Liberté d'expression, le grand détournement aux éditions Anna Moza. Et avec nous aussi Arnaud Esquéret, directeur de recherche à l'EHESS, auteur de Liberté, Vérité, Démocratie chez Flammarion. Bonsoir Thomas Hochmann, bonsoir Arnaud Esquéret.
Bonsoir.
Bonsoir.
On ne peut plus dire les choses telles qu'elles sont.
Si tu dis quelque chose, on va te traiter de raciste, d'islamophobe. Je fais attention à ce que je dis, parce que tout de suite, t'as une espèce de ligue de vertu qui te regarde au moindre mot.
Il faut déjà sortir de ce terrorisme intellectuel et politique.
Quand on dit les choses, ah bah vous êtes islamophobe, ah bah vous êtes raciste, ah bah vous êtes xénophobe, on n'a plus le droit de rien dire.
Jamais la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'irrévérence n'a été aussi corsetée qu'aujourd'hui.
Il y a une époque où la presse était muselée. Et c'est très bien qu'elle ne le soit plus. Mais nous sommes entrés dans l'âge très étrange de la presse muselante. C'est-à-dire une presse qui pourchasse la liberté d'expression.
À ce moment-là, il va falloir dire ce qu'on a le droit de dire. Et puis on le dira. Et à ce moment-là, on sera invité. Il n'y aura pas de problème.
Il y a la loi. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Ben moi, je vous le dis, on ne peut plus rien dire. Donc je le dis.
On ne peut pas dire les choses.
On ne peut plus dire les choses.
Je fais attention à ce que je dis.
Cet auto-musellement.
On ne peut plus rien dire.
I'm not allowed to say it.
On n'a plus le droit de rien dire.
Voilà, vous êtes sans doute amusé à essayer de reconnaître les voix de tous ces gens qui sont muselés et qui ne peuvent plus rien dire et qui le disent généralement assez largement. La première question que j'ai envie de vous poser, à vous deux qui êtes spécialistes de ces questions de liberté d'expression, c'est est-ce que c'est vrai qu'on ne peut plus rien dire, en tout cas que le champ de la possibilité de parler de ce que l'on veut s'est réduit. Thomas Hochmann.
Non, je crois que c'est pas vrai. Je crois que c'est l'inverse qui est vrai. En réalité, on n'a jamais pu autant s'exprimer qu'aujourd'hui. Et ceux qui prétendent qu'ils ne peuvent plus rien dire ont en particulier un accès à la parole. Disons, le camp de l'extrême droite, pour parler rapidement, a aujourd'hui des médias qui lui sont entièrement consacrés, qui lui sont dédiés. Donc, ils ont un accès très important à la parole. Et c'est assez remarquable qu'en général, quand quelqu'un dit qu'il ne peut plus rien dire, ben, en général, il vient de dire ce qu'il est censé ne plus pouvoir dire. Donc je crois que non, c'est pas tout à fait exact, c'est même complètement faux.
Alors ça veut peut-être dire qu'on ne peut plus rien dire partout. Où est-ce qu'on peut dire des choses et où est-ce qu'on ne peut pas les dire ? Est-ce qu'il y a des endroits destinés et des publics qui peuvent recevoir toutes les paroles et d'autres publics qui en seraient privés ?
Non, je crois que ça veut surtout dire qu'on ne peut plus rien dire sans être contredit. Et ça, ça montre à quel point tous ces gens qui revendiquent la liberté d'expression sont en réalité les pires ennemis de la liberté d'expression, puisqu'ils ne supportent pas la contradiction. Ils ne peuvent plus rien dire sans être vivement contredits. Mais qu'il y ait une thèse, une contre-thèse, des arguments qui s'opposent, bah c'est, ça s'inscrit parfaitement dans l'exercice de la liberté d'expression. Donc ça montre que ce camp qui a fait de la liberté d'expression un slogan, une devise, en réalité ne supporte pas la liberté d'expression.
Arnaud Esquerret, depuis quand on entend cette ancienne « on ne peut plus rien dire » ?
Alors, c'est vraiment la question que je pose en général aux gens qui me disent « on ne peut plus rien dire », je leur dis « mais on ne peut plus rien dire depuis quand ?» Et là, tout d'un coup, un gouffre s'ouvre, parce que alors ils disent bah, « depuis quelques années », mais je dis « mais avant quand ?» Avant les années, puisque c'était la même chose, dans les années début des années 2000, dans les années 90. Puis alors, à force de remonter, on tombe dans les années 70, quasiment.
On a un peu l'impression que les années 70, 80, on pouvait tout dire, on pouvait déconner, on pouvait se moquer de tout le monde, et en même temps, personne n'en prenait ombrage, comme s'il y avait une plus grande tolérance. Est-ce que c'est vrai ?
On oublie, en pensant cela, que les moyens de s'exprimer étaient beaucoup plus réduits et qu'il existait des formes beaucoup plus contraintes, en fait, de pouvoir prendre la parole et que depuis les années 80-90, en réalité, ce qui s'est passé, c'est une extension extrêmement importante de l'espace public, d'abord avec les médias audiovisuels, la télévision, la radio, et puis évidemment ensuite avec Internet et l'arrivée des réseaux sociaux qui permettent à chacune et chacun de pouvoir prendre la parole beaucoup plus facilement dans l'espace public et qu'elle circule et effectivement que les critiques prolifèrent. Alors évidemment, elles n'ont pas toutes le même poids, elles n'ont pas toutes la même portée, mais il y a cette extension extraordinaire de la liberté d'expression qui est tout à fait inédite.
Alors, vous datez dans votre livre, Arnaud Esquerret, vous prenez un moment important, c'est la fin de la censure officielle, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui a changé notre perception de ce qu'est la censure. Je vous propose d'écouter d'abord Maurice Clavel en 1971 et Valéry Giscard d'Estaing, trois ans après, en 1974, lorsqu'il abolit la censure d'État, et vous nous expliquerez après pourquoi vous datez aussi cette expression « on ne peut plus rien dire » de ce moment-là.
Le film que vous venez de voir a été censuré par la télévision française. Peu importe qu'il ait été censuré d'un mot, d'une phrase, d'une séquence, d'un tiers, des trois quarts, d'un centième. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. Pour ma part, je n'ai jamais pu vivre, ni écrire, ni parler sous le régime de la censure. On m'a prévenu dans l'après-midi de cette coupure qu'on m'opérait. En conséquence, je ne saurais prendre part à un débat qui commence sous le régime de la censure. Messieurs les censeurs, bonsoir.
Les libertés publiques seront minutieusement respectées. Plus d'écoute, plus de censure, ni sur les films, ni dans les prisons. On peut critiquer librement le président de la République. Il ne déposera pas de plainte.
Voilà, alors donc 1971, Maurice Clavel quitte avec fracas un plateau de télévision où il était censé débattre après la diffusion d'un de ses documentaires, d'un film qui parlait des mœurs en France et dont une partie avait été coupée, on l'avait prévenu dans l'après-midi, d'où ce départ fracassant. Et puis Valéry Giscard d'Estaing, élu en 1974, bannit la censure et promet, et il a tenu sa promesse, de ne pas porter plainte contre la presse quand il serait critiqué, même vertement. Arnaud Esquéret.
Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on évoque ces sujets, qu'il y avait, même si on était dans une démocratie, hein, là, depuis le début de la Troisième République, il y avait toujours une censure qui était une censure institutionnelle, c'est-à-dire exercée par l'État, qui s'était appliquée au théâtre jusqu'en 1906 et au cinéma, qui était considéré comme l'art qui touchait le plus grand nombre et donc potentiellement le plus dangereux, jusqu'à cette déclaration de Valéry Giscard d'Estaing de 1974.
Une petite parenthèse, dans les archives de Radio France et dans notre discothèque, la vaste discothèque de Radio France, il y a encore des vinyles avec le tampon censuré pour certaines chansons, Brassens notamment, certains albums.
Hier j'ai glissé sur une chaise en faisant pipi dans le lavabo. J'ai le menton en guidon de vélo et trois canines au Père Lachaise.
Pierre Perret, eh oui, les jolies colonies de vacances censurées sur France Inter, c'était dans les années 60. On fait pipi dans le lavabo, et eh bien ça ne plaisait pas à Tante Yvonne, à Madame de Gaulle. Arnaud Esquéret.
Oui, par ailleurs, il y avait aussi une censure qui était assumée comme telle, qui était exercée par l'Église catholique sur le cinéma. Alors, c'était une censure différente au sens où elle s'exerçait a posteriori et non pas a priori, c'est-à-dire que c'était une condamnation morale, par exemple de films, mais elle avait un impact économique, ce qui faisait que les producteurs pouvaient en tenir compte et veiller à ce que certains films, en fait, puissent éviter cette censure de l'Église catholique dans un pays qui était très majoritairement catholique, ce qu'on a aussi tendance à oublier. Et qu'est-ce qui se passe à partir de 1974 et cette déclaration de Valéry Giscard d'Estaing disant qu'il n'y a plus de censure, la censure institutionnelle et après mai 68, hein, tout ça dans le courant, dans la suite de mai 68, la censure institutionnelle tombe, c'est-à-dire elle n'est plus assumée par l'État avec une commission de censure comme telle sur le cinéma, il reste une commission de classification d'une part, et d'autre part, l'Église catholique laisse tomber ce terme de censure, même si elle peut s'exprimer sur un certain nombre d'œuvres. Alors,
La Passion du Christ, par exemple, le film.
Oui, tout à fait, mais on est loin de La Religieuse, oui, de Rivette, pour lequel c'était une partie des catholiques s'était mobilisée et qui avait conduit à l'interdiction du film de Jacques Rivette, La Religieuse, dans les années 1960. Dès lors, en fait, que cette censure institutionnelle disparaît, le terme censure est utilisé différemment, puisque on ne peut plus accuser certaines personnes de l'exercer. Tout d'un coup, la question, en fait, se pose de savoir si la censure n'est pas partout. Et donc, on en vient à désigner un certain nombre d'actes, qui sont des actes de sélection, de choix, etc., comme étant des actes de censure, simplement parce que on n'est pas content, en fait, des choix qui peuvent être effectués. Et c'est ça, en fait, la grande transformation de l'usage du mot censure qui conduit à penser par la suite qu'on ne pourrait plus rien dire et qui met en accusation un certain nombre de principes au nom desquels on fait ces critiques sur les propos qui seraient restreints ou limités.
Donc Thomas Hockmann, on a l'impression que le mot censure, la censure a changé d'acception, c'est ce que nous dit Arnaud Esquéret, et que maintenant il y a un sentiment d'être censuré par un politiquement correct, je mets des guillemets, une dictature de la pensée, une sorte de poids moral invisible qui s'abattrait, une chape de plomb qui s'abattrait sur la liberté d'expression, comme si certains se sentaient, et ça a l'air sincère, quand on écoutait tout à l'heure ce petit florilège, se sentaient vraiment censurés.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ce contre quoi ils protestent sont en particulier les lois qui datent de la même époque qu'on évoquait à l'instant, de lois de 1972 en particulier, qui interdisent les discours de haine, c'est-à-dire les provocations à la haine, à la violence, à la discrimination contre des personnes en raison de leur origine, de leur religion, de leur nation, etc.
Et c'est... Elles ont été complétées après la loi Guesso contre le racisme, l'antisémitisme.
Bien sûr, mais disons que ces restrictions-là de la liberté d'expression telles qu'on les connaît aujourd'hui datent de 72, elles ont été modifiées depuis. Or, c'est surtout contre ces lois-là que protestent tous ces gens qu'on a entendus tout à l'heure. Et donc l'invocation de la censure, c'est pour dénoncer, je crois, deux choses. Comme je le disais, le fait d'être contredit. On me contredit, c'est une censure, c'est insupportable. Et également l'application de ces lois qui interdisent, qui encadrent les discours de haine.
C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est compliqué de différencier la censure officielle avec le visa et le numéro qui suit derrière les autorisations officielles d'un côté et les limitations légales de l'autre.
Oui,
là, il y a des bornes qui sont difficiles à différencier.
Oui, enfin, c'est assez simple, je crois, disons, au sens strict, la censure au sens juridique, c'est un terme qu'on utilise pour désigner les restrictions préventives de la liberté d'expression, c'est-à-dire interdire la diffusion d'un film, interdire une pièce de théâtre, interdire l'impression d'un livre, c'est préventif, ça intervient avant. Mais il y a d'autres restrictions de la liberté d'expression qui interviennent après, qui vont permettre de condamner des propos illégaux qui ont été tenus. Et là, lorsqu'on parle de censure, c'est pour désigner tout autre chose. En fait, c'est pour désigner une restriction de la liberté d'expression avec laquelle on est en désaccord. C'est ça que désigne aujourd'hui ce mot de censure.
Oui, mais alors ceux qui disent qu'on ne peut plus rien dire disent, bah écoutez, en réalité, on est obligé, pour être audible, pour être invité, ici ou là, on est obligé de s'auto-censurer. Le mot auto-censure, Arnaud Esquerret, vous dites qu'il est, ce terme autocensure, vous dites qu'il est assez récent.
Tout à fait. C'est un terme qui apparaît d'une telle familiarité qu'on oublie qu'il n'était pas utilisé avant les années 60, et cela pas seulement en français, mais dans d'autres langues parlées en Europe. Et je pense qu'il se réfère à l'idée d'une censure intérieure, d'une censure psychique, qui nous vient de la psychanalyse, et plus particulièrement d'une théorie que Sigmund Freud a élaborée quand il a cherché à produire une théorie des rêves, de l'interprétation des rêves. Et pour expliquer la bizarrerie des rêves, il en est venu à imaginer qu'on avait une censure psychique, une censure intérieure, qui faisait que les rêves avait dans les récits qu'on en faisait ces formes ou ces incohérences, mais qui, si on les interprétait avec un certain nombre de techniques, on pouvait retrouver derrière ce que Freud considérait être l'expression d'un souhait. Cette censure psychique élaborée par Freud, c'est ça le substrat de cette idée d'autocensure qu'on a généralisée absolument partout, mais qui prend son essor dès lors que la censure institutionnelle et tomber.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Nous sommes toujours avec Thomas Hochmann et Arnaud Esquerret et nous nous demandons si on ne peut plus rien dire, si la liberté d'expression est à ce point menacée.
J'ai connu, moi, dans ma sous-préfecture d'Argentan pendant des années, des gens qui lisaient Le Monde des Livres et qui, le lendemain, étaient très savants après avoir lu Le Monde des Livres parce que c'était un catéchisme. Ça, c'était un bon livre, ça, c'était un mauvais livre, ça, c'était un livre ou un film dont on pouvait parler, ça, c'était une table qu'on pouvait pratiquer pour aller dans ce restaurant, etc. Et tous ces gens qui ont besoin d'ouvrir le monde pour savoir quoi penser, ou d'ouvrir Libération, ou d'ouvrir l'humanité, en se disant « Je ne sais pas ce que je pense, mais je vais le savoir dans 3 minutes, laissez-moi le temps de finir la lecture de mon journal. » Et on sait très bien comment fonctionne le monde, on sait bien comment fonctionne l'AFP, qui ne sont pas des agences autonomes et indépendantes. Ces gens-là sont nommés parce que le pouvoir les nomme, parce qu'ils verrouillent partout.
Voilà, c'est le philosophe Michel Onfray qui est invité très régulièrement dans la presse Bolloré et un peu partout, et qui dit très régulièrement et un peu partout qu'on ne peut plus rien dire. Michel Onfray qui finalement définit ce terme, la police de la pensée. Il y aurait une police de la pensée, vous avez entendu Le Monde, Libération, l'Humanité, certainement aussi Radio France. Comment vous réagissez à cette accusation, Thomas Hochmann ?
C'est toujours la même rhétorique qui consiste à dire soit vous m'invitez, vous me mettez à la une toutes les semaines et vous me laissez parler toute la journée à votre antenne, soit vous êtes des censeurs, vous êtes des adversaires de la démocratie, vous pratiquez la police de la pensée. Ce qui montre bien qu'il ne s'agit en aucun cas, chez Michel Onfray ou d'autres, de plaider pour une véritable liberté d'expression avec un débat contradictoire. Il s'agit d'étouffer le débat pour faire triompher sa propre parole.
Alors, tout à l'heure, Thomas Hochmann, vous nous expliquiez que ceux qui se plaignaient de la fin de la liberté d'expression trouvée en réalité en face d'eux du répondant pour la première fois. Ce n'était pas le cas avant.
Mais c'était le cas, mais il est certain qu'avec le développement des réseaux sociaux, il y a un accès à la parole publique qui est beaucoup plus important qu'auparavant, même si les expressions sont diffusées de manière inégale, même si bien sûr que certains ont un accès plus important à la parole publique que d'autres, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous vous exprimez publiquement, bah vous vous exposez à des critiques, à des réactions, et des réactions qui parfois sont très virulentes, à des insultes, à des réactions très fortes. Mais est-ce que cela, ça veut dire que vous n'avez pas pu parler ? Non. Alors, il est possible, effectivement, que lorsque une prise de parole provoque de très nombreuses réactions courroucées, des réactions très vives, que cela dissuade de s'exprimer. C'est en ce sens-là, peut-être, qu'on pourrait retravailler la thèse du « on ne peut plus rien dire ». Mais là encore, elle reste trompeuse, puisque lorsqu'on débat avec quelqu'un, c'est toujours dans l'espoir de rendre plus difficile la répétition des arguments adverses.
Donc on confond censure et confrontation.
Vraiment, on présente comme de la censure ce qui n'est qu'une contradiction et qui s'inscrit parfaitement dans l'exercice de la liberté d'expression. C'est là le piège de cette rhétorique du « on ne peut plus rien dire ».
Certains pensent que pour que la droite reparle aux Français, il faut qu'elle donne des gages aux censeurs qui sont ceux qui, à Paris, délivrent les diplômes de politiquement correct. Moi, je crois exactement à l'inverse. Et pour le dire très simplement, je suis fier d'être de droite et je n'ai pas l'intention de m'excuser de mes valeurs. Voilà.
Alors, Arnaud Esquerré, les censeurs, dit Laurent Wauquiez, parce que là, il s'agit de Laurent Wauquiez, le 27 septembre 2017, les censeurs qui délivrent des diplômes de politiquement correct. Là, on est dans le flou du mot censure.
Oui, c'est-à-dire qu'on désigne par cette expression politiquement correcte, qui date des années 90 et à laquelle ont succédé d'autres expressions à la mode aujourd'hui, celle du wokisme ou de la cancel culture, la culture de l'annulation, le fait de prêter une attention particulière quand on s'exprime à un certain nombre de principes moraux qui peuvent viser le fait de ne pas être contre certaines minorités sexuelles, le fait de ne pas être misogyne, le fait de ne pas être raciste.
Oui, c'est assez intéressant quand les gens disent « on ne peut plus rien dire », c'est assez amusant de leur demander « mais quoi exactement ? Qu'est-ce qu'on ne peut plus rien dire ?» Et c'est toujours autour du racisme, du sexisme que
ou de l'écologie.
Ou de l'écologie, oui.
Et si vous voulez, quand on dit ça, les gens qui disent ça font comme si il n'y avait pas de morale avant. Mais il y avait une morale qui était encore beaucoup plus forte. C'était la morale principalement alignée sur celle, d'ailleurs, de l'Église catholique.
Que Laurent Wauquiez peut-être revendique un peu en disant « je n'ai pas honte d'être de droite, il faut pouvoir le dire ». C'est comme s'il invoquait le retour, ou il espérait le retour d'une certaine morale.
Ben, il fait une fausse opposition dans son discours, puisqu'il oppose d'un côté ce qu'il appelle le politiquement correct avec la vérité. C'est pas du tout comme ça que ça s'oppose. La vérité est un problème important, mais c'est un autre problème. Et en réalité, c'est bien plutôt la confrontation ou le choix, en fait, d'une morale par rapport à une autre qui est posée. J'ajouterais par ailleurs que ces discours sur le politiquement correct, sur le hockey, sur la question de la cancel culture, sont des discours qu'on entend depuis les années 90. Et ça n'empêche pas de continuer à s'exprimer.
La justice sociale, la famille, la patrie, la sécurité des uns et des autres, la liberté.
Jacques Chirac, 1998.
Par une espèce de censure sournoise que l'on nous imposerait, nous n'aurions pas le droit de dire ce que nous en pensons. Eh bien, je ne suis pas disposé à subir le terrorisme intellectuel venu d'une gauche moralement et intellectuellement décadente.
Alors la cancel culture, Thomas Hockmann, il faut qu'on y vienne parce qu'il y a eu des cas, pas si nombreux que ça, mais il y en a eu des cas où finalement la censure officielle n'existe pas, mais une autre forme de censure s'est exercée, puisque une pièce de théâtre, par exemple la pièce d'Eschyle, Les Suppliantes, montée par la compagnie Demodocos en 2019, a été, on peut dire ça comme ça, censurée sous la pression d'une association, le CRAN, et de militants de cette association aidés par des étudiants. Je vous propose d'écouter la satisfaction d'un des dirigeants du CRAN juste après cette interdiction de fête.
Ouais, voilà, donc on tenait à remercier tout le monde encore une fois, une victoire ce soir. On est venu à la Sorbonne, on a bloqué les trois entrées de la Sorbonne, on a réussi à faire annuler le spectacle ce soir. On est venu avec les frères de la BAN. On tenait à remercier les étudiants qui ont participé à ce blocage pour dire non au blackface, stop au blackface. Donc ce théâtre n'a pas eu lieu ce soir, vous voyez. Pas de victoire sans combat.
Voilà, il faut expliquer pourquoi le courroux de ces militants du CRAN, c'est à cause du blackface dans la pièce L'Échille. Il y a des personnages qui ont un masque en cuir pour représenter le fait qu'ils sont noirs, et ce sont des acteurs qui sont blancs et qui mettent ce masque-là, et ça, c'est le blackface. Donc, Thomas Hochmann, une censure de fait, quand même.
Alors, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que dans la montagne d'ouvrages contre le wokisme, contre la tyrannie woke, la religion woke, etc., ce sont toujours les deux, trois mêmes exemples qui sont mobilisés, dont celui-ci. Alors, oui, il y a pu avoir des cas, évidemment. C'est regrettable que cette pièce n'ait pas pu se jouer.
Elle
s'est jouée d'ailleurs quelques jours plus tard. Bon, il n'est jamais bienvenu qu'une pièce de théâtre soit censurée de fait, comme vous dites, comme ça a été le cas ici. Mais bon, ce sont vraiment de micro-anecdotes qui sont toujours utilisées pour donner à croire qu'on est aujourd'hui dans une société où on ne peut plus rien dire, où, et en particulier à l'université, où le wokisme est triomphant. Et je crois que c'est une rhétorique qui est assez efficace, notamment à propos de l'université, parce que la grande majorité de la population ne fréquente pas quotidiennement ou ne fréquente plus quotidiennement l'université. Donc tout le monde est disposé à croire à force ce qu'on nous raconte sur l'université, où on ne peut plus inviter telle personne, où on ne peut plus aborder tel sujet. C'est pas vrai. Alors, bien sûr, il peut y avoir des cas isolés, mais ils sont surtout construits pour nourrir cette rhétorique anti-woke qui vise à présenter la lutte contre le racisme comme un racisme, qui vise à lutter la lutte contre l'intolérance comme une intolérance.
Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, on a
vous
cherché...
Vous avez bien du mal à trouver des exemples.
Et on est toujours retombé sur celui-là qu'on a d'ailleurs utilisé dans notre émission sur le wokisme, que vous pouvez bien sûr télécharger. Arnaud Esquéret.
Oui, et il faut, pour compléter ce que dit Thomas à l'instant, ajouter qu'il y a tout un ensemble de mouvements, d'associations qui se présentent comme défendant la jeunesse ou défendant le catholicisme, qui mènent une série d'actions légales ou parfois illégales pour limiter ou empêcher certaines œuvres.
Ils y arrivent.
Et par exemple, ils y arrivent, ils y sont arrivés au cinéma avec le célèbre cas de Baise-moi, le film de Virginie Despentes, en 2000. Et en ce qui concerne une pièce de théâtre, puisqu'on parlait là de pièces de théâtre, hein, je rappellerai qu'en 2011, la pièce de Romeo Castellucci sur le concept du visage du Fils de Dieu a été interrompue par des manifestants qui ont déployé une banderole « Catophobie, ça suffit » sur la scène, et que 32 de ces perturbateurs ont été condamnés pour entrave à la liberté d'expression par le tribunal correctionnel de Paris 2 ans après.
On entend beaucoup de gens qui se plaignent tout le temps que c'est dingue, on ne peut plus rien dire, que le politiquement correct, franchement, c'est de pire en pire. Qu'on ne peut même plus penser tout haut, qu'on doit faire attention à chaque mot, qu'avant pays des Lumières, la pauvre France est devenue une vraie dictature de la bien-pensance. Mais la situation n'est pas si morose, il y a encore des gens qui osent s'exprimer librement, sans peur du jugement. Des gens qui osent dire que les écolos c'est des terroristes, qu'il faut séparer l'homme de l'artiste, que l'extrême gauche en fait c'est l'extrême droite, qu'il faut donner des cours de cuisson de pâtes, que les violences policières ça n'existe pas, que Samuel Paty ça commence avec la baïa, qu'on aimerait bien faire ses films tranquillement sans qu'on nous rabâche ces histoires de viol tout le temps. On ne peut pas dire qu'on ne peut plus rien dire, la preuve y a quand même plein de trucs qu'on peut dire. Si on ne pouvait plus rien dire, ces choses que chaque jour on entend dire. À ceux qui pensent qu'on est bâillonné, que quoi qu'on dise on risque de choquer, rassurez-vous, la barre est placée bien haut et remontée chaque jour un peu plus par Pascal Pro. Certes, il y a des sujets un peu plus touchy, mais on peut faire des liens entre les Arabes et les puces de lit. On peut dire que les féministes, c'est bien, mais faut pas qu'elles en fassent trop, qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. On peut dire sur un plateau, sans faire chuter les audiences, que les chasseurs sont les premiers écolos de France, que c'est la fraude aux allocs qui ruine le pays, que les produits laitiers sont nos amis pour la vie, qu'il y a des gens qui travaillent et des gens qui ne sont rien, que violer des gosses c'était pas pareil dans les années 80. On peut demander sans être pendu sur la place publique, qui aurait pu prédire la crise climatique. On ne peut pas dire qu'on ne peut plus rien dire, il en provient quand même plein de trucs qu'on peut dire. Si on ne pouvait plus rien dire, est-ce qu'on pourrait dire toutes ces choses que chaque jour on entend dire?
Voilà, merci à Charline Vanhoenacker de nous avoir prêté cette chanson de Guédré, passée dans le Grand Dimanche Soir en 2023.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Enquête de liberté d'expression. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. C'est le thème jusqu'à 19h de Enquête de politique. Et nous sommes toujours avec Thomas Hochmann et Arnaud Esquerré. Thomas Hochmann a écrit On ne peut plus rien dire, liberté d'expression, le grand détournement aux éditions Anna Mozart. Et Arnaud Esquerré, liberté, vérité, démocratie chez Flammarion.
Il faut éviter d'avoir une définition trop large, car si tout devient message de haine, évidemment, on ne peut plus rien juger, ou alors il faut tout censurer. Mais ça, ça bloquera complètement la liberté d'expression. Alors, ce que nous trouvons de mauvais goût ou désagréable, est-ce qu'il faut pour autant le censurer? Disons que non. On ne va pas le censurer, même si c'est quelque chose qui nous déplaît fortement. Parce que où on s'arrête sinon? Si vous n'aimez pas quelque chose et vous le censurez, tôt ou tard, ce sera vous qui serez censuré à votre tour.
Croire en la démocratie, c'est comprendre que chacun de nos citoyens possède une sagesse et une voix. Et si nous refusons d'écouter cette voix, même nos combats les plus réussis n'aboutiront à très peu de choses. Comme le pape Jean-Paul II, l'un des plus grands défenseurs de la démocratie sur ce continent ou ailleurs, l'a dit un jour, n'ayez pas peur. Nous ne devrions pas avoir peur de notre peuple, même lorsqu'il exprime des opinions qui diffèrent de celles de leurs dirigeants. Merci à tous. Bonne chance à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, dans l'ordre, Elon Musk et J.D. Vance, le vice-président américain, qui nous disent, nous envoient comme message, n'ayez pas peur de la liberté d'expression. On peut dire des choses même fausses et même choquantes, et finalement interdire les excès, interdire les outrances. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de la liberté d'expression? Est-ce que ça ne va pas créer justement une sorte d'autocensure et amoindrir et tuer le débat, tuer la richesse de la réflexion politique? C'est ce qu'on appelle le chilling effect. Thomas Hochmann, expliquez-nous ce qu'est et quelles sont les limites du chilling effect.
D'abord, juste pour souligner à quel point c'est remarquable que ce soit Musk, Vance, qui défendent comme ça la liberté d'expression, quand on voit ce qu'ils font de la liberté d'expression lorsqu'ils sont au pouvoir, où ils interdisent des livres, ils interdisent des mots, ils expulsent des militants en raison des opinions exprimées. Donc ça montre très bien cette arnaque de...
Ils luttent contre la science, oui.
Exactement, contre la science et contre la liberté d'expression. Donc c'est vraiment, c'est ça le grand détournement aussi, c'est qu'ils ont fait de la liberté d'expression une valeur qu'ils invoquent, alors qu'ils en sont les plus grands ennemis.
C'est vrai que ça devient compliqué maintenant de pointer la fameuse cancel culture woke, vu le volume de ce qui est interdit par ceux qui combattaient les excès du wokisme dont on a parlé juste avant la chanson.
Ça montre que le véritable danger, c'est l'anti-wokisme, parce que lui, il est bien réel, et lorsqu'il est au pouvoir, il ne fait pas de cadeaux.
Alors, le chilling effect.
Voilà.
Effect.
Pour répondre sur le chilling effect, donc l'effet réfrigérant, donc c'est l'autre nom de l'autocensure, effectivement, c'est l'idée que lorsqu'on interdit une expression, eh bien, dans les faits, on dissuade davantage d'expressions que ce qu'on interdit. Par exemple, aux États-Unis ou en Allemagne, dans les conceptions traditionnelles de la liberté d'expression, on considère qu'une fausse affirmation factuelle, un fait manifestement faux, n'a aucune valeur pour la liberté d'expression, il ne nourrit pas le débat démocratique, donc on pourrait parfaitement considérer qu'il n'est pas du tout protégé. Mais si l'on interdit ça, on risque de dissuader davantage d'expressions, puisqu'un journaliste, par exemple, va beaucoup hésiter avant de critiquer le gouvernement, avant de sortir une information, en se disant « est-ce que c'est parfaitement exact ?» Si on est condamné pour la moindre exactitude, on risque de dissuader de l'expression qui, elle, a une certaine valeur.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est compliqué. La vérité factuellement établie par les scientifiques ou journalistiquement, elle n'est pas toujours aussi limpide. On l'a bien vu pendant le Covid que la vérité scientifique, elle est apparue doucement, parce que c'est long à établir souvent. Donc si on combat de façon trop abrupte ou trop frontale la fausseté d'une information, on risque de tuer tout débat.
Voilà, de dissuader beaucoup de discours. C'est pas faux, ça c'est tout à fait exact. Et c'est pour cela que les régimes juridiques, démocratiques de la liberté d'expression tiennent compte de cet effet dissuasif et protège davantage d'expression, même de l'expression qui peut-être serait dénuée de valeur. Par exemple, sur les chaînes de télévision, il n'y a pas du tout une obligation de vérité absolue de chacun des propos. En revanche, il y a une obligation d'honnêteté de l'information. Ça veut dire qu'il doit y avoir certaines procédures qui sont mises en place pour vérifier l'information. Il doit y avoir un certain effort vers la vérité. Donc on n'interdit pas simplement ce qui est faux, parce que ça risquerait de dissuader beaucoup d'expressions, mais on exige une certaine méthode.
Une méthode, mais il y a aussi la question du statut juridique. Les chaînes de télévision, les journaux, France Inter par exemple, et tous les journaux, Le Figaro, Le Monde, Libération, ont comme statut le statut d'éditeur. Et leurs patrons et eux-mêmes sont responsables de ce qu'ils disent. Les réseaux sociaux ont un statut d'hébergeur et ne sont pas responsables. Ça change beaucoup de choses et ça change notamment le point de vue de Musk, qui est le patron d'un hébergeur et non pas d'un éditeur.
Bien sûr, mais je crois que son point de vue sur la liberté d'expression, l'usage qu'il fait de cette valeur est beaucoup plus massif que sur la seule question des réseaux sociaux. Et bien entendu, la régulation de la parole sur les réseaux sociaux, c'est un des grands défis aujourd'hui. Et donc, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour à la fois pousser ces plateformes à supprimer les discours illégaux, mais tout en les incitant à ne pas sur-supprimer non plus et à protéger malgré tout la liberté d'expression. Bien entendu que c'est difficile, mais c'est cela qu'on essaye de faire, et prétendre qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux on ne peut plus rien dire, allons, c'est pas sérieux.
Arnaud Esquéré, sur le chilling effect, alors je dois vous avouer, ça va faire rire peut-être nos auditeurs, tant pis, je pensais que le chilling effect avait été inventé par un chercheur comme vous, Arnaud Esquéré ou Thomas Hockman, un chercheur américain qui s'appelait Schilling. Non, Schilling ça veut simplement dire réfrigéré, glacé. Donc sur le chilling effect, Arnaud Esquéré.
Moi, je voulais revenir sur le discours de J.D. Vance qu'on a entendu du 14 février. Vous avez passé un extrait
à Munich.
Vous avez passé un extrait dans lequel il fait référence pour parler de la liberté d'expression au pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur. C'est-à-dire ce même pape qui avait condamné en 1985 la distribution du film de Jean-Luc Godard, Je vous salue Marie, et donc qui n'est pas exemplaire en matière de défense de la liberté d'expression.
Je pense que J.D. Vance faisait plutôt référence à celui qui a combattu le communisme, une forme
Tout à
de
fait.
Dictature.
Et cette référence au communisme, elle est présente dans les discours d'universitaires qui dénoncent un totalitarisme woke. Et on voit bien, en fait, ce que ce type de discours qui dénonce un totalitarisme woke produit quand il est porté au pouvoir, c'est-à-dire, en fait, produit un mode d'exercice autoritaire du pouvoir.
C'est-à-dire qu'on en a en plus en ce moment l'exemple quotidien. Il y a un autre aspect de la liberté d'expression, un autre aspect qui semble réduire le champ de ce qu'on peut dire ou de ce qu'on ne peut pas dire, c'est le phénomène de polarisation. Je propose d'écouter Édouard Philippe.
Quand vous commencez à présenter un chiffre, vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « Oui, mais les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Hein ?» Non, on ne va pas parler des faits. On va dire ce qu'on pense. Et donc, la conviction remplace la démonstration. On a une immédiateté qui prévaut. On a une complexité qui est niée. Écoutez nos débats publics, c'est toujours simple. Tous les gens qui se collent au réel, tous les gens qui exercent des responsabilités savent que ça n'est jamais simple. C'est toujours compliqué, le droit est compliqué, le budget est compliqué, le réel est compliqué. Alors évidemment, quand on arrive et qu'on dit c'est simple, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'observe qu'on peut à la fois tout dire aujourd'hui et quand même subir la police de la pensée. On vit dans un monde où on peut quasiment tout dire, et parfois des horreurs, des contre-vérités manifestes, et pourtant, nous vivons aussi, c'est le même monde, dans un monde où vous avez la cancel culture, le wokisme, qui peut vous tomber dessus en vous disant « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Comment ? Vous lisez Homer ? Quand même une vision très masculine de l'Antiquité, Homer.
Bon, alors sur la cancel culture et le wokisme, on en a parlé.
Oui, c'est, j'aimerais c'est, bien qu'on m'explique qui est interdit de lire Homer aujourd'hui.
Oui, en plus. Mais ce qui m'intéresse plus dans ce que vient de dire l'ancien Premier ministre et candidat à la présidence, Édouard Philippe, c'est la polarisation et finalement un modéré. Parce qu'on entend beaucoup les extrémistes dire, et c'était notre petit florilège du début de l'émission, on ne peut plus rien dire. Mais là, c'est un modéré qui se plaint et qui dit on ne peut plus rien dire de modéré, de nuancé. La nuance est interdite. Il y a cet aspect-là aussi, Thomas Hochmann.
Effectivement, alors c'est peut-être un peu autre chose. Moi, j'entends dans ce que dit Édouard Philippe l'importance donnée aux faits dans le débat public. Et c'est pour avoir un véritable débat public démocratique, pouvoir s'appuyer sur une base factuelle commune et pas simplement des échanges d'opinions.
C'est souvent les modérés qui revendiquent de pouvoir parler des faits. Est-ce que les modérés ont raison de se plaindre de l'état du débat actuel?
En tout cas, il y a un vrai danger dans le débat actuel, qui n'est non pas dénoncé, mais qui est augmenté par l'invocation du « on ne peut plus rien dire », c'est la présence massive de désinformation, effectivement, et donc de manipulation des faits qui ne permettent pas un débat véritablement démocratique, et c'est aussi la présence inédite dans cette ampleur-là des discours de haine. Et ça, je voulais juste mentionner un autre type d'effet dissuasif, pour revenir à ce qu'on disait juste avant, c'est l'effet dissuasif sur les juges, sur les autorités de régulation comme l'ARCOM, de ce discours du « on ne peut plus rien dire » lorsqu'on invoque la tyrannie, le régime autoritaire, même l'affaire Dreyfus, comme a pu le faire Michel
Onfray. Pour C8.
Voilà, pour dénoncer le fait qu'on fasse un minimum respecter les lois qui encadrent le débat public, ben là, il y a un vrai effet dissuasif sur les juges. Et évidemment, ça s'inscrit dans exactement la même rhétorique que ce qu'on vit depuis quelques jours avec la condamnation du Rassemblement National et de Marine Le Pen, où on a un discours d'intimidation des juges qui sont accusés d'être des adversaires de la démocratie au motif qu'ils appliquent les lois qui protègent la démocratie.
Il y a une criminalisation dans le jugement en fait, des droits de la défense. On nous a même reproché d'avoir défendu l'idée que les faits qui étaient soumis au tribunal étaient prescrits. Non mais pardon, vous nous direz la prochaine fois, vous nous ferez la liste de ce qu'on a le droit de dire. Peut-être faut-il arriver avec la robe de bure, à genoux et la corde au cou pour vous faciliter le travail. Ben non, on ne va pas faciliter le travail. Parce que nous considérons, encore une fois, qu'il y a énormément de choses à dire sur le fond de ce dossier et que ce dossier a été utilisé en réalité exactement dans le but qui est intervenu hier. Le seul objectif, c'était celui-là.
Voilà, petit point d'actualité, Marine Le Pen, juste après sa condamnation il y a quelques jours. Arnaud Esquéré, le « on ne peut plus rien dire », la victimisation, c'est un des carburants du populisme aussi.
Oui, on l'a vu notamment aux États-Unis, au Brésil, où cette question s'est posée. On peut penser au cas l'an dernier d'un juge brésilien qui a suspendu pendant un moment l'accès au réseau social X parce que Elon Musk, ou en tout cas l'entreprise dont Elon Musk est propriétaire, ne se conformait pas à un certain nombre de demandes et autorisait des comptes qui contestaient la manière dont le président Lula avait été élu. Et donc, effectivement, dès lors qu'il y a des juges qui rappellent un certain nombre de principes, vous avez des personnes qui contestent en fait ces principes en disant c'est de la censure. Il y a cette position qui peut être adoptée et qui remet en cause la justice ou les autorités indépendantes.
Alors tout à l'heure, quand Thomas Hochmann nous parlait de la nuance, je vous voyais réagir, Arnaud Esquéré.
Oui, je voulais réagir avec peut-être une analyse un tout petit peu différente de celle qui a été présentée, au sens où, si vous voulez, très souvent, on a cette idée d'un débat qui serait une discussion nuancée entre gens raisonnables, avec des arguments, et que ça serait policé, et que ça serait ça l'idéal, et qu'il ne faudrait pas avoir d'autres modes d'expression en démocratie. Or, ce que nous montre, en fait, et ce que permet l'extension de ces espaces publics, c'est quand chacune ou chacun prend la parole, eh bien, chacune et chacun s'exprime d'une manière qui n'est pas forcément les termes souhaités par les gens qui ont cet idéal qui vient du XVIIIe siècle.
Il ne faut pas en avoir peur.
Du siècle des Lumières. Eh bien, non, parce que, si vous voulez, c'est comme ça. C'est-à-dire, en fait, il faut admettre que, quand on s'exprime, eh bien, il y a des tas de formes différentes, et il faut vivre avec, dès lors qu'on est dans les limites de la liberté d'expression. Et il est vrai, par ailleurs, que ces formes peuvent être plus virulentes aussi parce que les gens peuvent prendre la parole de manière anonyme ou sous un pseudonyme, de manière beaucoup plus fréquente que ce qui était le cas, évidemment, auparavant. Et il y a une sorte d'écart entre la manière dont on peut prendre la parole de manière anonyme et la manière dont on prend la parole en face à face, où on s'autorise à dire moins de choses.
Est-ce que le pseudonymat ou l'anonymat, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Est-ce que c'est un frein à la liberté d'expression ou un bienfait ?
En tout cas, ça modifie quelque chose à la liberté d'expression, au sens où, quand on prend la parole de manière anonyme ou sous pseudonyme, on s'autorise à dire beaucoup plus de choses que ce qu'on s'autorise à dire quand on est en face à face.
De façon un peu déresponsabilisée.
De façon désinhibée, on va
désinhibée,
dire.
Les deux.
Et donc, ça a un effet en contre-coup, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez tout un ensemble de critiques qui sont beaucoup plus agressives et qui sont adressées effectivement dans l'espace public. Et c'est ça aussi que subissent les gens qui s'expriment et qui, quand ils se plaignent, en fait, qu'ils ne peuvent plus rien dire, c'est parce qu'ils sont confrontés à cet ensemble de critiques qui peuvent être anonymes ou sous pseudonyme.
Alors pour finir, Thomas Hochmann, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que c'est que la fenêtre d'Overton. C'est une notion qu'on utilise beaucoup quand on parle de liberté d'expression, l'élargissement de la fenêtre d'Overton. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de la fenêtre d'Overton ?
Ça désigne un élargissement des limites du dicible, disons, de ce que l'on peut dire publiquement sans soulever immédiatement des réactions telles
qu'on n'oserait pas le dire. Ça n'a rien
d'illégal ou
d'illégal.
Non, non, c'est pas un concept juridique, ça désigne plutôt ce qu'il est permis de dire au sens ce qui est dicible, ce qui peut être dit sans susciter de réactions trop vives. Et cela, on utilise ce concept pour désigner une situation où beaucoup de choses, notamment sur les minorités, beaucoup de propos peuvent être tenus aujourd'hui qui auraient été jugés inadmissibles il y a quelques années. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que ces discours de haine sont tenus à longueur d'antenne sur certaines chaînes. Il y a des médias également imprimés qui sont consacrés à ces discours. Et ce qui fait que ces propos sont tenus aujourd'hui alors qu'on ne les aurait pas entendus aussi ouvertement il y a encore quelques années, et c'est pour ça qu'il existe des lois qu'il ne faut pas hésiter à appliquer en dépit de la rhétorique très efficace du « on ne peut plus rien dire ».
Eh bien, merci beaucoup Thomas Hochmann. Je rappelle le titre de votre livre « On ne peut plus rien dire, liberté d'expression, le grand détournement » chez Anna Moza. Et merci Arnaud Esquéré, « Liberté, vérité, démocratie » chez Flammarion. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, ça va nous aider pour l'émission de la semaine prochaine qui sera consacrée au bolorisme. Enquête de politique où on peut tout dire est réalisée par Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard, à la technique ce soir Maxime Goudard, à la programmation musicale autorisée et censurée Thierry Dupin. Tous les numéros d'Enquête de politique sont disponibles en podcast sur l'appli Radio France. Je vous retrouve dimanche prochain après le journal de 18h et d'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.